lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est indispensable de comprendre que l'histoire donne un rythme au futur.
Le témoin de ce vendredi, Shaoxin Li, la diaspora chinoise en France.
Je suis venue en France dans l'espoir de gagner de l'argent. C'est vrai que depuis que je suis toute petite fille, on m'a toujours dit que la France, c'était bien. C'est comme un rêve pour moi. Maintenant que je suis arrivée ici, effectivement, je me rends compte que c'était pas aussi bien que ce que j'avais imaginé.
Combien sont les Chinois de France? Les chiffres varient. C'est en tout cas le groupe de Chinois le plus important d'Europe. On peut dire que l'immigration chinoise en France est une tradition, au moins centenaire. Une tradition qui se renouvelle après. Les Chinois de l'ex-Indochine sont venus les Wenzhou et les Chinois des provinces du Nord-Est, etc. Cette diaspora est devenue une autre famille pour Shaoxin Li, qui ne cesse d'y travailler, de la filmer, de l'aimer. Il faut dire que la migration était une tradition dans sa propre famille, laquelle est passée de la Chine du Nord à celle du Sud, de la Chine du Sud à Taïwan, avant qu'elle-même ne parvienne en 1991 à Dijon. Les Chinois de la diaspora sont-ils agités par un mouvement brownien? S'ils acceptent les conditions de vie souvent inouïes qui leur sont imposées par les gardes chiourmes de leur communauté, s'ils avalent tant de douleurs, c'est aussi qu'ils gardent un port d'attache. Ils veulent améliorer le sort de leur famille, rester au pays et rester dignes eux-mêmes de leurs aïeux. À Belleville, où elle a son poste premier d'observation, Shaoxin Li a entendu souvent cette question: pourquoi le canard laqué de tel restaurant a-t-il tel goût? Et cette réponse, c'est que le propriétaire a transporté le four des aïeux dans toutes ses pérégrinations afin d'en conserver partout où il passe la saveur particulière.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Bonjour à vous, Shaoxin Li.
Bonjour.
Vous signez votre premier film de fiction après plusieurs documentaires. Il s'intitule Shanghai, Belleville. C'est un très beau film qui n'a pas assez d'écho encore. Il passe à l'entrepôt Paris 14e, mais j'espère qu'il sera distribué plus largement encore dans toutes les villes de France. Je disais, vous êtes d'une famille qui connaît d'expérience la migration. Mais enfin, quand j'explique que votre famille est passée de la Chine du Nord à la Chine du Sud, de la Chine du Sud à Taïwan, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous-même, vous êtes perdu.
Je suis complètement perdue et en même temps, je regrette de ne pas demander à mon père. Il est mort. Ma mère, elle est vieille. Elle a perdu toutes les mémoires. Voilà, c'est une histoire compliquée. En même temps, c'est une histoire pour beaucoup de familles, pas seulement à Taïwan, qui a vécu les choses peut-être difficiles. Donc, on n'a pas envie raconter notre histoire aux enfants. Et moi, j'avais pas envie de démonter. C'est plus facile savoir sur les autres que savoir sur soi-même. Sur soi-même, c'est plus douloureux. Et c'est pour ça que je suis devenue anthropologue et cinéaste, parce que je voulais savoir sur les autres pour comprendre moi-même.
Déjà à Taïwan, vous aviez des enseignants qui vous parlaient anthropologie, ethnologie et cinéma. Vous avez connu très jeune le nom de Jean Rouch, cet ethnologue qui tournait en Afrique occidentale et qui était dans le souci de montrer les situations vraies.
La situation vraie, c'est un grand problématique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que j'ai beaucoup de mal à rester comme un scientifique, comme un anthropologue. C'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, dans ce cas-là, je voulais apprendre la création, la fiction.
Mais avant qu'on en vienne à votre premier film de fiction, je voudrais rappeler quand même un de vos premiers travaux. C'était chez les aborigènes de Taïwan, au centre de votre île natale. Ici, non pas un extrait de ce film, mais un reportage pour France Inter, signé Anne Pastor.
À l'âge de 6 ans, ce sont ses parents qui lui demandent de faire le tatouage sur le front. C'est le symbole des ancêtres et le ciel. Le tatouage sur les joues, c'est plutôt la terre. Et c'est très précieux pour la tribu tatayale. Si on n'a pas ce genre de tatouage, leurs ancêtres n'arrivent pas à les protéger. Quoi.
Et vous êtes fier toujours à 86 ans d'avoir votre tatouage.
Aujourd'hui, c'est un trésor national.
On parle des aborigènes d'Australie, des aborigènes de Taïwan. En Europe, on n'en parle jamais. Oui, parce qu'en fait, il y a plus d'aborigènes à Taïwan qu'en Australie. En Australie, ils sont 300 000 aborigènes. Ici, ils sont 450 000.
Davantage d'aborigènes à Taïwan qu'en Australie. Mais à Taïwan, ethnologue, vous le savez, vous donnez de la tête. Parce qu'il y a des gens d'un peu partout. C'est une île carrefour incroyable.
Oui, c'est un insulaire. En même temps, vous voyez cette dame de 86 ans, quand elle est en train de chanter, parler, ce n'est pas que la langue Taïa. Il y a aussi les Japonais et mélange avec la langue Océanie, Philippines. Il y a un mélange incroyable, et c'est ça le Taïwan.
Vous êtes parti en 1991, et vous avez atterri à Dijon, fait des études à l'école des hautes études en sciences sociales, et puis aussi au fameux studio dans l'agglomération de Lille du Frénois. Parce que vous dites, ma mère c'est l'ethnologie, et mon père c'est l'art contemporain, la spécialité du Frénois.
Oui, parce que anthropologie, c'est quelque chose de mon corps, c'est quelque chose de maternel. J'ai découvert moi-même, ça a changé complètement mon comportement, ma façon de penser, ma façon d'être. Mais c'est pas suffisant, j'ai besoin de chercher la liberté aussi. J'ai envie d'aller au extrême. Et c'est pour ça que j'ai envie de créer, j'ai envie d'avoir la liberté de penser, de créer.
Les débuts sont quand même malaisés et un de vos professeurs, Emmanuel Théret, vous dit... L'anthropologie, ça doit aussi s'incarner dans le corps du groupe auquel vous appartenez, la diaspora des Chinois. Il vous recommande de devenir bénévole, de traduire les Chinois quand ils ont des difficultés devant la justice française, quand ils doivent régulariser leurs papiers.
Oui, je me souviens, j'étais convoquée par Emmanuel Théret. Elisabeth Alès, donc elle est spécialiste musulmane en Chine. C'est à Rue Chalot, le bourse de travail. Et donc, c'est un grand théâtre. À cette époque-là, c'est 96, quand j'étais arrivée dans ce bourse de travail. J'étais très frappée. Il y a beaucoup les familles, les femmes, avec les enfants dans les bras, encore les bébés dans les bras. Il ne comprend pas ce que Emmanuel Théret ou les militants pour les régularisations des sans-papiers à cette époque-là. Et donc, je fais la traduction. Et après l'Assemblée générale, j'ai beaucoup discuté avec la famille parce que je sais que la condition de vie est très difficile, mais je ne sais pas pourquoi, à ces conditions-là, ils ont voulu continuer à rester en France. Pourquoi ? Ils veulent continuer à rester en France. Et moi-même, j'ai aussi ma famille. Je me suis mariée, j'ai une petite fille, mais ma famille sont encore à Taïwan. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a mon frère. Et tous les jours, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit à ma fille, je rentrerai à Taïwan l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai beaucoup discuté avec la famille chinoise sans papier. Et à partir de là, j'ai essayé de comprendre moi-même aussi.
C'est une interrogation sur vous-même, l'anthropologie. Ici, il y a un extrait d'un film que vous avez tourné. C'est votre œuvre documentaire dans la première partie de votre vie. Shoshan Lee, une jeune fille, est arrivée. Et ce personnage raconte les conditions du passage qu'elle a connu.
Dans le village... Presque tout le monde est en courant qui fait le passeur, en fait. Il vient nous demander, en fait, est-ce que ta fille voudrait bien tout ça? Ben, mon père dit oui, en fait. ça prend en fait 15 jours, le moment où mon père dit oui et que je pars en fait. C'est tout vide en fait dans ma tête. Et parce que c'est un peu vite. J'ai pas pensé que ça arrive tout si vite. Le passeur nous a demandé de couper les cheveux et faire la couleur. Parce qu'il dit que si on change de couleur, peut-être c'est plus de, comme voyageur. Parce qu'après, on va au Hong Kong. Ben, au Hong Kong, on achète des habits un peu à la mode. En fait, c'est le passeur qui décide. Et à Hong Kong, on prend l'avion jusqu'à Malaysia. On habite dans l'hôtel. Il y a un passeur qui n'est pas très gentil en fait, avec les filles. Il aime bien les filles. Il a trop bu. Et il arrive dans une chambre de dame. C'est la nuit. Et le passeur dit que c'est pour te donner le billet de l'avion. Pour demain, on va partir. Mais elle dit que c'est trop tard. On ne peut pas parler demain. Ben, elle dit que non, non, sinon tu restes ici. Alors la dame a ouvert la porte et ben, il a violé en fait.
En exigence de ce service et d'un prix de passage très élevé, le passeur offre la décoloration, les habits. Il offrirait aussi bien, si c'était un homme, une cravate et un costume pour passer pour un homme d'affaires.
Oui, quand un couple de tourisme. Par contre, c'est pas un trajet direct, ça c'est sûr. Parfois, ça peut être très très compliqué. Par exemple, les villes où viennent les gens de Wenzhou, de maintenant qui viennent un petit peu partout de Hebei. Souvent, c'est les gens du sud. Donc, il faut monter jusqu'à la frontière Russie. Il faut prendre un train. Il faut traverser toute la Russie vers pays l'Est. Après, parfois, ils font incroyables détours hein, jusqu'en Afrique et remontent en France. Ou bien, on peut passer en Turquie, en Grèce. Tout est possible. Tout est possible. C'est juste que venir en France, par contre. La France, c'est vraiment un parc tout non. À partir de la France, aussi, il part en Angleterre. En Allemagne ou bien en Italie.
C'est d'ailleurs cette pluralité de possibilités qui vous a fait inventer dans votre premier film de fiction, on y vient, Shanghai, Belleville, on peut le voir à Paris, à l'entrepôt actuellement. Un des personnages principaux, qu'on surnomme le Croate, parce qu'avec sa famille, il est venu par bond et par rebond, en passant par les Balkans. Nous sommes dans un dortoir de sans-papiers, et le voici qui chante, Anthony Faux.
Les gens comme mes parents sont arrivés ici après un long voyage. Ils ont traversé la planète sans profiter du paysage. Ce n'était pas un vol direct, beaucoup plus lent, bruité et sauvage. C'était le voyage clandestin de ceux du clan des sans-destins. Ils en ont franchi des montagnes, des rivières et des plaines, à pied, en bus, en stop. Ils en ont franchi des frontières pour atteindre l'Europe, par la Russie, ou par le Kazakhstan, ou par la Turquie, ou les Balkans. Ils sont pas si simples qu'on pense, les chemins de ceux qui sont arrivés jusqu'en France.
Je me souviens, c'est comme si c'était hier. À 3 ans, j'arrive en Croatie. Détruite par la guerre entre les Serbes, les Croates, bienvenue en enfer. Pourtant, c'est paradis pour clandestins chinois. Qu'à personne n'y dit rien quand ils passaient la frontière. Mes parents meurent, assassinés par des passeurs. Ensuite, on arrive clandestin à Paris. Mais moi, je peux pas retourner en Croatie. Car les tueurs de mes parents me poursuivent. Seulement ici, c'est pas chez moi. Mon bled à moi, c'est la Croatie.
Tout ça pour ça. Les doigts à toute la tour Eiffel, cette ville qu'on appelle Paris dont j'ai rêvé toute mon enfance. Cette belle ville où il y a belle et belle, dont mes parents me parlaient tout le temps quand j'étais petit. Quitter papy, quitter mamie et le village où j'ai grandi. Rejoindre mes parents à Paris, c'était quitter le paradis et venir habiter en... Ne venez pas parler de chance, écoutez bien ce que je dis. Venu pour aider ma famille qui survivait dans la couture et avait besoin de mes mains pour l'élégance des Parisiens. Je faisais mes devoirs après. La nuit tombée montait la lune, on avait tant besoin de thunes. Et je venais d'avoir 13 ans.
Parce que que c'est comme ça que ça se passe pour ceux du clan des sans-destins. Un seul repas par jour, et c'est déjà très bien. Parce que c'est comme ça que ça se passe pour ceux du clan des sans-destins. 3 mètres carrés sur le cou, en attendant demain.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Quand vous construisez, Shoshin Lee, un film de fiction avec un personnage de fiction, appelons-le le Croate, celui qu'on vient d'entendre, il y a davantage de liberté, c'est le cas pour votre premier film de fiction, Shanghai Belleville, que dans un documentaire où les témoins sont gênés pour raconter leur histoire vraie.
J'ai eu un... Je ne sais pas si c'est une chance ou c'est un malheur pour moi. C'est un petit... Les gens, ils peuvent facilement me confier le vie, la douleur, le joie de la vie. Alors, quand je travaillais avec les sans-papiers, quand je fais une enquête anthropologique, aussi documentaire, au départ, c'est... les gens, en fait, on a toujours pensé les sans-papiers... n'ont pas voulu raconter leur vie. En fait, c'est pas tout à fait ça que je rencontrais. Peut-être il y a un parcours déjà, je le connais, pendant l'Assemblée Générale, j'ai accompagné les enfants, aller inscrire à l'école, crèche, tout ça. Donc je le connais très bien. Donc, ils m'ont raconté vraiment, souvent dans le dortoir, les jeunes filles, les jeunes hommes. On se met pour aller, vraiment l'alcool de riz, ils commencent à me raconter leur vie, tout ça. Je peux très bien, c'est vrai que mettre en caméra, filmer ce qu'ils m'ont raconté. Pour un documentaire, c'est très bien à regarder si on voulait le dire directement comme ça. Mais je sens une responsabilité vis-à-vis les gens comme ça, les gens qui me confient leur vie. Vous voyez, moi je suis entre deux mondes. Un monde sans papier, donc c'est comme un monde fantôme. Il n'y a pas l'identité, on ne sait pas qui ils sont. Et mon côté, vraiment, le métier de cinéma, de chercheuse, c'est un monde parfois mondain, très aisé. J'ai l'impression que j'ai une responsabilité vis-à-vis à ces personnes-là. Et en même temps, je me sens peut-être trop sensible est trop petit pour supporter, pour porter cette responsabilité. Mais je trouve que le monde est riche. J'ai envie de transmettre ces émotions. Je pense que ces émotions-là, c'est la joie, c'est la douleur, c'est le parcours des gens incroyables. J'ai envie de partager ça avec les autres. Mais je réfléchis, je pense que le documentaire, ce n'est pas le meilleur moyen. Au moins pour moi, je pense que peut-être la fiction, il puisse montrer encore plus profond d'émotions et en même temps, j'ai envie de protéger ces personnes-là. Pour moi, c'est important. Je continue suivi ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'il y a un passage vraiment assez douloureux pour moi. À partir du documentaire, c'est quelque chose de très important pour moi dans la vie. Essentiel. Et un passage jusqu'à la fiction. Mais c'est exactement le passage entre anthropologie et art contemporain. Donc, Shanghai Belleville, c'est un mythe contemporain, c'est un fiction, c'est pas un reportage ni un documentaire. Et j'ai vraiment envie de montrer ces émotions avec beaucoup de dignité.
Néanmoins, c'est nourri, ce conte, à la limite du fantastique, où les personnages peuvent être des fantômes pour acquérir une dimension intemporelle, c'est nourri d'observations que vous faites à Belleville, avec vos petits carnets. Vous êtes allé dans les caves où des ateliers clandestins travaillent pour une niche économique qui est le textile. Vous êtes allé dans ces dortoirs collectifs où s'entassent les gens sans papier.
Pendant la régularisation de 97. Donc, j'ai accompagné beaucoup la famille pour la traduction, pour le rendez-vous à la préfecture. Après, la famille, pour faire la fête aussi, m'a invité, ou bien les enfants qui m'appellent. Ma mère est malade, comment on doit faire? Donc, je suis arrivée dans un endroit incroyable. Il y a beaucoup de conditions famines, c'est les conditions du 19e siècle. Dans un famine plein milieu de Paris, dans un immeuble assez bourgeois. On va rentrer au fond de cour, on a une trappe, on est ouvert. Parfois, il y a les cadenas qui ferment. On ouvre, il y a une petite escalier qui descend, et dedans, c'est un autre monde. Et c'est là, souvent, les sans-papiers chinois, pour me remercier, la traduction, tout ça, l'accompagnement, ils m'ont donné les vêtements.
Ils fabriquent dans ces caves.
Oui, et c'est les vêtements fabriqués en France. C'est beaucoup plus cher que vêtements made in China. Ce qu'on appelle ça, c'est délocalisation sur place. Mais on est en plein centre de Paris.
Il en est d'autres qui n'ont pas de papier non plus et qui vivent dans des chambres en haut des immeubles. Ce sont des chambres à putes. Alors un personnage extraordinaire est interprété par Carole Lowe. C'est une prostituée au visage très architecturé et à la détermination très grande. Elle passe une petite annonce sur Internet. Elle veut un mariage avec un Français. Et se présente un retraité, ici interprété par Jacques Boudet dans votre film Shanghai Belleville. Nous sommes dans un restaurant chinois de Belleville.
C'est bien ici, c'est chaleureux. Hein. Et c'est bon, hein. J'aime bien. Tout épicé. Et toi, tu cuisines bien?
Oui.
Ça fait longtemps que tu es à Paris?
Un an et demi.
Et tu parles bien.
Hein. Merci.
C'est joli ton accent. Hein.
Merci.
Je suis très heureux de te rencontrer. Hein. Ouais. J'aime beaucoup la culture asiatique. Ouais. Tu es la première asiatique que je rencontre. Je ne pensais pas que je voudrais encore rencontrer quelqu'un, mais voilà.
Toi, foncé?
Oui, pourquoi?
Ta carte foncée. Je veux voir ta carte foncée.
Ma carte? Tu veux voir ma carte d'identité?
Oui.
Tu n'as pas confiance?
Pas carte foncée, je ne peux pas faire ami avec toi.
Ah ben, dis donc. Voilà.
Henri, c'est joli.
Voilà, il a mordu à l'appât et on pourra dire, une fois le mariage fait, que Carole Lowe le mènera par le bout du nez. Très important, le mariage. Pas seulement pour acquérir les papiers.
C'est un repère aussi. Cette génération de femmes chinoises de 45 ans jusqu'à à peu près 55 ans, c'est ce qu'on a trouvé, les prostituées chinoises à Belleville ou ailleurs, un peu partout à Paris. En fait, on l'appelle la génération sacrifiée. Et donc, elles sont souvent arrivées en France seules, avec un rêve, parfois un homme de sacrifice. Donc, mariage, c'est pas seulement, bien sûr, il faut régulariser la situation administrative, plus facile, c'est vraiment le mariage. Mais en même temps, ce sont les femmes qui portent le rêve et rêve de toute la famille aussi. Pourquoi je dis ce sont les générations sacrifiées? Quand on voit l'histoire de cette génération de femmes, c'est vraiment l'histoire contemporaine de la Chine. Ça veut dire quand elle était petite, c'était révolution culturelle, donc elles ont une relation très mauvaise avec leurs parents, avec la famille. Et puis, elle n'était pas à l'école parce qu'elle était dans la rue pour faire la révolution. Mais elle était encore l'enfant, donc elle ne connaît pas grand-chose. Et après, quand elle arrive, vraiment 30 ans, 40 ans, vraiment, elle avait travaillé toute leur vie comme les hommes, c'est ce que Mao Zedong a dit. les femmes qui portaient la moitié ciel que les hommes. Donc, elle avait travaillé dans l'usine étatique pour fabriquer la voiture, le tank, le bateau, le train, comme les hommes. Quand elle arrive, 45 ans, c'est la société chinoise très ouverte aujourd'hui. L'usine étatique a privatisé, donc elle a perdu le travail. Maintenant, il y a beaucoup de divorces aussi en Chine. Donc, ce sont les femmes. Elle a divorcé, elle a perdu son travail, laissé pour compte. Elle a un enfant qui arrive en âge pour rentrer à l'université. Donc, l'université a privatisé, donc ça coûte très cher. Et après, l'hôpital, qui coûte très cher aussi. Donc, elle doit payer aussi l'argent pour le parent malade, âgé. Voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a dit, je veux sacrifier ma vie. J'ai 55 ans, je peux tout faire.
Je peux avaler ma douleur après cette vie que j'ai connue. Mais si on regarde de près le sort des plus jeunes dans votre film, Anthony Faux et sa jeune amoureuse, personne dans votre film, Shanghai Belleville, ne se marie avec qui il le souhaite. Chez les jeunes aussi, il faut avaler la douleur. Et on a l'impression que les Chinois de la diaspora, à cause des obligations qu'ils ont vis-à-vis de leurs aïeux, de leur famille au pays natal, eh ben ils font le sacrifice de l'épanouissement personnel.
Je pense pas seulement pour les Chinois, pour beaucoup les Asiatiques. La famille, c'est assez important. Les parents, c'est assez important. Les clans, c'est assez important. Et individu, c'est tout petit. Donc, les Asiatiques sont beaucoup moins individualistes. Parfois, c'est pas tout à fait un sacrifice. Ça veut dire qu'on fait moins attention à nous-mêmes, on fait plus attention aux familles. Parfois, je trouve que ça fait du bien aussi de ne pas tous les temps très individualiste. Bon, je suis une Asiatique, je suis une Taïwanaise, la famille, c'est super important. C'est pour ça que je dis, si j'étais à la place de Anna dans mon film, je pourrais être une prostituée et sacrifiée pour ma famille. Je peux tout à fait à sa place.
Et vous ne vous plaindriez pas, puisque, comme le dit l'un de vos personnages, si tu as le temps de te plaindre, c'est que tu as le temps de travailler aussi. Alors vos aventures maintenant vont vous porter vers l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de Chinois en Afrique. Ce sera le thème de votre prochain film qui est en écriture, mais je recommande chaudement, d'ores et déjà, Shanghai, Belleville. Allez le voir à l'entrepôt à Paris. Exigez qu'on le distribue à travers toute la France. Il en dit infiniment plus long que toutes les vaines polémiques qu'on accumule sur l'immigration. Merci à vous.
Merci.
L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la préparation Frédéric Martin et Franck Oliva, à la technique Antoine Fortin.
Merci à vous Jean Lebrun, on vous retrouve dès 13h30 lundi pour une nouvelle semaine de la Marche de l'Histoire. Lundi, dans la Marche de l'Histoire, il sera question de la démographie française et de sa singularité. Mardi, Jean Lebrun recevra l'historien et politologue Amit Bozarlan. Ensemble, ils évoqueront la figure d'un philosophe et homme politique du XIVe siècle, Ibn Khaldoun. Et mercredi, nous serons le 27 janvier, Jean Lebrun rendra hommage à cette très grande dame qui nous a quittés mercredi, Edmonde Charleroux. Pour réécouter ou podcaster les émissions, rendez-vous sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la page de l'émission La Marche de l'Histoire. À suivre, Mathieu Vidard, au menu du Club des Têtes au Carré aujourd'hui, maths, erreurs judiciaires, robots et animaux.